SBS Radio. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Monsieur Ross McInnes, président du conseil d'administration de Safran et qui est, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec cette entreprise, un grand groupe industriel et technologique français présent au niveau international dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Il est également représentant spécial du ministre pour l'Australie. Monsieur McInnes, bonjour, bienvenue et merci d'être parmi nous sur les ondes de SBS French.
J'en suis ravi.
Alors, j'aimerais avant tout qu'on revienne en détail pour bien expliquer à nos auditeurs sur les activités du groupe Safran. Donc, c'est un groupe concepteur et producteur de moteurs d'avions, d'hélicoptères, de fusées, d'équipements aéronautiques en fait, et de défense avec plusieurs filiales.
Vous l'avez parfaitement résumé dans votre introduction. J'ajouterai à ça quelques chiffres. 20 milliards de chiffre d'affaires, 90 000 employés, et une capitalisation boursière de 50 milliards d'euros, ce qui en fait à peu près la 10e ou la 12e capitalisation boursière parisienne. Donc dans les moteurs d'avion, si vous volez en Australie, il y a toutes les chances que vous utilisiez dans l'avion que vous empruntez le CFM56, qui est le moteur que nous concevons depuis 40 ans dans un partenariat à 50-50 avec GE, puisqu'il équipe tous les 737 de Qantas et de Boeing, et bientôt les A320 de Jetstar. Par ailleurs, quand on décolle, c'est bien, mais c'est très bien d'atterrir aussi. Et donc, nous produisons des trains d'atterrissage, des roues et des freins que vous trouverez sur la plupart des équipements Airbus. Dans le domaine militaire, Safran est le concepteur et le fabricant du M88, qui est le moteur du Rafale, l'avion qui a gagné un certain nombre de contrats à export. Vous l'aurez vu au Qatar, en Inde et en Égypte. Dans le spatial, vous l'avez rappelé, en partenariat cette fois avec Airbus à 50-50, nous sommes actionnaires d'Ariane, du groupe Ariane, qui conçoit la propulsion qui permet d'envoyer dans l'espace à la fois des satellites civils et militaires. Et en défense, des matériels optroniques. Ce sont des matériels qui permettent de voir, notamment la nuit, ou d'affiner ou de gérer la conduite de tir, et des systèmes de navigation inertielle. En quelques mots, la navigation inertielle, c'est quelque chose qui vous permet de savoir où vous êtes, dans trois dimensions, notamment quand il n'y a pas de GPS. Et finalement, nous avons fait l'acquisition cette année d'une autre entreprise française leader dans son domaine, qui est Zodiac, qui est le leader mondial des sièges et des équipements de cabine d'avion, avec une activité également d'aérosystèmes, notamment dans toute la chaîne électrique de la propulsion de l'avion.
Monsieur McInnes, vous êtes franco-australien, vous êtes né à Calcutta, vous avez fait vos études supérieures en sciences politiques, économiques et philosophie au St. John's College à l'université d'Oxford. Vous commencez votre carrière dans des banques avant de rejoindre des groupes industriels internationaux, et vous avez intégré Safran en 2009 comme directeur général adjoint, puis prenez la tête du conseil d'administration en 2015. Vous êtes fait aussi officier de la Légion d'honneur en janvier 2017. Est-ce que je résume, bon, là, rapidement, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail votre carrière ?
Vous l'avez parfaitement résumé. Le seul détail que vous avez oublié, c'est que j'ai fait mes études primaires et secondaires en France, notamment au lycée Janson de Sailly à Paris. Et c'est à la suite de ces études que j'ai rejoint Oxford. Je suis assez rapidement revenu à Paris, où j'ai commencé, comme vous l'avez rappelé, dans la finance. Mais ensuite, assez rapidement dans le monde industriel, Eridania Béguinsey, une société sucrière, enfin Thales, puis Thales, l'ancienne Thomson CSF, et comme directeur financier juste après sa privatisation. Et j'ai eu le plaisir, notamment à l'époque, de faire partie de l'équipe de Thales qui a participé à l'acquisition en Australie de Australian Defence Industries, devenue Thales Australia. À l'époque, c'était 130 personnes. Aujourd'hui, Thales Australia est un des fleurons de l'industrie de défense australienne, avec 3500 employés, des implantations à Bendigo, à Benalla, des rôles très importants à la fois dans les véhicules terrestres, dans les sonars ici à Rydalmere, dans la banlieue de Sydney, et un acteur clé du futur programme sous-marin. Pour faire bonne mesure, j'ajouterais que Safran en Australie a 130 personnes qui participent très activement à l'entretien des équipements Safran qui sont les moteurs d'hélicoptères utilisés par l'armée australienne, mais également tous les équipements qui sont à bord des bateaux de surface ou sous-marins de la marine australienne. Et nous sommes particulièrement attachés à notre présence australienne dans la mesure où il y a d'énormes programmes à la fois dans le terrestre, l'air et bien sûr l'armée de terre, qui permettront également aux équipements Safran de contribuer à l'excellence des forces de défense australiennes.
D'où est venu votre intérêt pour l'économie, la finance, les grands groupes industriels ?
Alors, c'est deux choses un peu différentes. Je pense que par mimétisme, en quittant Oxford, j'ai fait ce que beaucoup de mes camarades faisaient, c'est-à-dire j'ai intégré ce qui était la City de Londres, et où j'ai travaillé à Londres, puis au Brésil et finalement à Paris. Et je crois qu'après des années, quand je donnais des conseils aux dirigeants, j'ai voulu passer de l'autre côté du comptoir et voir le résultat du travail sur la durée. Et je crois que c'est une des grandes satisfactions d'un dirigeant, c'est qu'il travaille sur la durée, notamment dans des activités d'aéronautique et de défense où le cycle de vie de nos produits est très long. Je prendrai un moteur d'avion. Les matériaux qui sont clés dans la conception du moteur qui succède au CFM56, le LIP, ces matériaux ont commencé à être conçus en 1992, il y a donc près de 30 ans. Les premiers moteurs ont été produits il y a un an et demi. Il y en a quelques centaines qui volent d'ores et déjà. Et ces moteurs voleront pendant encore 40 ans. Donc le cycle de vie de nos produits est quelque part entre 50 et 60 ans. Donc nous sommes clairement une industrie de très long terme qui requiert une vision, des investissements, un engagement en recherche et développement à très long terme. Et c'est d'ailleurs un des éléments de l'excellence française, et pas seulement dans le domaine de la défense et de l'aéronautique, mais c'est particulièrement symbolique. Et je crois que moi, je me considère en tant que président de Safran comme un maillon d'une chaîne, une chaîne qui a commencé en 1905. Et notre objectif est, au directeur général Philippe Petit-Collin et à moi-même, est de laisser cette société à nos successeurs dans un meilleur état à la fois économique, mais également stratégique. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de l'acquisition que nous avons faite de Zodiac Aerospace que j'évoquais tout à l'heure.
Alors, là, vous êtes en Australie. On va quand même parler de votre venue. En 2015... Pour resituer un peu tout ça, vous êtes donc nommé représentant spécial pour les relations avec l'Australie par le ministère des Affaires étrangères, par Laurent Fabius, à cette époque. À partir de là, vous jouez les intermédiaires dans la négociation de ce qu'on appelle le contrat du siècle, conclu en avril 2016 entre l'Australie et la France. C'est la vente à Canberra de 12 sous-marins par le groupe français DCNS pour 35 milliards d'euros. Aujourd'hui, vous êtes donc en Australie, car vous accompagnez la ministre française de la Défense, Madame Florence Parly, pour, eh bien, entre autres, faire avancer ce projet.
En l'occurrence, je nuancerai certains des termes que vous avez utilisés, si je puis me permettre. Le terme intermédiaire a des connotations que j'aime autant éviter. Le représentant spécial du ministère des Affaires étrangères a vocation à intégrer l'équipe France quand il s'agit de suivre les intérêts français, notamment dans le contrat que vous avez évoqué. Et là, j'étais chacun dans son couloir de nage, si j'ose dire, l'ambassade ici, les services compétents du Quai d'Orsay et surtout ceux du ministère de la Défense et de la Délégation générale pour l'armement, avons formé une équipe extrêmement soudée qui, durant cette période de 2 ans, a travaillé pour faire en sorte que l'offre de DCNS devenue Naval Group prouve sa supériorité dans l'intérêt de l'Australie par rapport aux offres concurrentes. Et je crois qu'un des facteurs décisifs du succès de DCNS devenu Naval Group, c'est que nous avions un bateau, le Barracuda, modelé sur le Barracuda que nous, la France, utilisons d'ores et déjà, que nous utiliserons pendant encore 40 ou 50 ans, et sommes capables d'offrir à l'Australie non pas un produit, mais une technologie, puisque les sous-marins seront pour l'essentiel construits en Australie méridionale, où était notre ministre des Armées hier. Il y a d'ores et déjà à Cherbourg une cinquantaine de familles australiennes installées d'ores et déjà pour travailler en anticipation de la signature finale du contrat commercial. Donc nous offrons à l'Australie non pas un produit, non pas un bateau, mais une alliance technologique et stratégique. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian, quand il est ministre de la Défense, est venu en 2016, fin 2016, signer cet accord stratégique. Et nous engageons avec nos amis australiens, durant la vie qui est très longue d'un sous-marin, là encore, on raisonne en demi-siècle, en cycle de produits, accompagner l'Australie au début et jusqu'à la fin du programme. D'ailleurs, la meilleure garantie que nous le ferons, c'est que ces bateaux, nous les utilisons, mais avec propulsion nucléaire, les bateaux australiens, les sous-marins australiens seront à propulsion classique. Et donc, il s'agit non pas d'une simple vente de produits, mais d'une alliance stratégique, illustrée d'ailleurs par la visite en Australie au mois de mai du président de la République, Emmanuel Macron, qui a souligné l'importance de l'axe Indo-Pacifique, notamment avec notre alliance avec l'Inde et également notre alliance en matière de défense, mais qui s'étend à bien d'autres domaines avec l'Australie. Donc c'est un contrat qui scelle, qui illustre, qui fera vivre une alliance stratégique.
Et où en sont les négociations relatives au contrat? Parce que c'est aussi pour ça que vous êtes venu. Le mois dernier, The Australian Financial Review parlait peut-être d'un litige entre la France et l'Australie concernant la date finale du projet. Donc où en sont réellement les négociations?
En tout cas, il n'est pas question de litige. Il s'agit plutôt de veiller à ce qu'un contrat commercial qui a vocation, je le disais tout à l'heure, à durer plusieurs décennies, soit parfaitement aligné avec l'intérêt des deux parties. Et si, comme Christopher Pyne l'a d'ailleurs souligné hier en présence de Florence Parly, s'il faut quelques semaines, voire quelques mois de plus, pour régler des questions qui avec lesquelles nous aurons à traiter pendant 40 ou 50 ans, eh bien, à l'échelle de cette durée, les quelques semaines que vous évoquez ou que la presse évoque ne sont qu'un petit grain de sable dans le sablier.
Est-ce qu'on peut dire que les relations économiques franco-australiennes deviennent de plus en plus importantes?
En fait, elles l'ont toujours été. Le contrat lié au sous-marin a changé la perception. Mais quand vous faites le tour de la présence des entreprises françaises en Australie, elle est très importante. 38 des sociétés du CAC 40 sont présentes en Australie. Et elles fournissent des services, d'ailleurs, que certains d'entre nous utilisent dans la vie de tous les jours, ici en Australie, les tramways de Melbourne, le Light Rail, ici à Sydney. Dans l'environnement, les activités de Suez sont très importantes. Dans l'énergie, Engie aussi, ainsi que dans les infrastructures, nos constructeurs tels que Bouygues ont un rôle important. Dans les domaines de la pharmacie et du vétérinaire, également, des relations sont très importantes. Et puis finalement, bien sûr, dans l'aéronautique et la défense, j'ai parlé de Thales, j'ai parlé du fait que nous avons 400 moteurs qui volent sur Qantas et sur Virgin. Donc la présence française en Australie est extrêmement forte dans des domaines de haute technologie, d'ailleurs ce qui correspond assez bien à nos complémentarités. L'Australie n'est pas un pays à bas coût. La France non plus. Et l'Australie est un pays qui est capable d'absorber, de développer des technologies. Et d'ailleurs, dans le domaine de la défense, un des critères clés, là encore, du contrat des sous-marins est lequel des partenaires, en l'occurrence ce sera la France, peut contribuer le mieux à une implication long terme de l'industrie australienne à ce projet. Et c'est une des priorités que nous avons, sous l'auspice de notre délégation générale de l'armement, d'associer des entreprises australiennes qui permettront, durant la vie du contrat de sous-marin, pour l'Australie d'avoir une vraie souveraineté, c'est-à-dire la capacité de maintenir, mais également de prendre à bord, d'utiliser tous les progrès technologiques des prochaines 40 années. Et l'Australie en est parfaitement capable grâce à l'excellence du système éducatif, mais l'Australie doit le faire pour construire une industrie de défense autonome à la hauteur de ce que la stratégie australienne commande.
Monsieur McInnes, dernière question. Est-ce que vous pensez que Paris, que la France peut être une base pour faire des affaires en Europe après le Brexit? Est-ce que vraiment Paris, la France, redeviennent attractives pour les entrepreneurs et pour les entreprises?
La France a toujours été attractive pour les entreprises. La France est depuis des années le deuxième ou le troisième réceptacle d'investissements étrangers. Donc nous ne sommes pas en train de passer d'un jour à l'autre, de la nuit à la lumière. Par contre, il y a des progrès très importants qui ont été enclenchés. Je suis totalement bipartisan dans mon rôle de représentant spécial du ministre. Des projets très significatifs en matière de réforme, notamment au bénéfice des entreprises, ont été commencés par le gouvernement de Manuel Valls. Le gouvernement actuel d'Édouard Philippe, sur l'impulsion du président de la République, ont poursuivi de manière très significative dans ce sens la réforme du droit du travail, la réforme de l'apprentissage, la suppression de l'impôt sur la fortune, ou son aménagement, devrais-je dire. Et donc, tout un tas de facteurs d'amélioration sont en train de se dérouler sous nos yeux avec des effets pratiques. Par exemple, le recours au prud'homme a baissé de 15% d'une année à l'autre. Donc, on voit bien que certains de nos points faibles en termes de flexibilité du droit du travail sont en train de s'améliorer. Mais la France n'a pas attendu le Brexit pour être un centre financier majeur. Ça a toujours été la deuxième place pour la gestion de capitaux, pour prendre un exemple. Les banques françaises sont des banques, notamment BNP, Société Générale et le secteur mutualiste, sont des banques mondiales. Ce sont des banques extrêmement bien capitalisés, qui n'ont jamais été affectés par la crise de 2008. C'est très important de le rappeler. Alors que certaines grandes banques britanniques ont fini dans la poche du contribuable, ce n'est pas le cas de nos banques. Donc Paris a toujours été une place d'excellence financière. Et j'ajouterai à ça les entreprises du CAC 40 qui ont un rayonnement mondial, bien plus que beaucoup d'entreprises britanniques ou allemandes. Donc Paris a toujours eu des gros atouts. Alors ces atouts prennent une dimension supplémentaire avec le Brexit, puisqu'un certain nombre d'institutions financières devront avoir un siège et des activités réelles, pas une boîte aux lettres, dans la zone euro. Paris, comme Francfort et Amsterdam, sont généralement les villes souvent citées. Paris a un grand avantage. Je ne sais pas combien de gens rêvent de passer un week-end à Francfort. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Il se trouve que Paris présente un cadre de vie. Alors, un cadre de vie, c'est pas seulement des cafés, des restaurants et des voies sur berge. C'est également des emplois pour les partenaires et les époux, parce que c'est très bien d'emmener... La première question que vous pose un de vos employés quand vous leur dites « je vous propose de vous délocaliser en France ou ailleurs », la première chose à laquelle il pense, c'est l'école pour les enfants. Et la deuxième, c'est l'emploi pour son époux ou son épouse. Eh bien, Paris offre ce que n'offre pas, c'est une agglomération de petites villes provinciales comme Dublin, Amsterdam et Francfort. Paris est une vraie ville monde où il y a des emplois pour les conjoints, où il y a des écoles pour les enfants, il y a une école espagnole, il y a une école italienne, bien sûr un nombre d'écoles anglo-saxonnes et des places pour des Japonais au lycée international. Donc Paris offre, outre l'attractivité financière qui est largement améliorée par les mesures qui ont été prises par nos gouvernements successifs, je m'attache à le dire, offre également un cadre de vie très important pour les cadres de la finance que l'on veut attirer. Mais je ne m'arrêterai pas à la finance. Je prendrai la R&D, des centres de recherche et développement qui existent en Grande-Bretagne. Les prochains ne seront pas en Grande-Bretagne. Parce que ces centres de recherche et développement doivent attirer des personnes de haut niveau, scientifiques, qui doivent pouvoir voyager en Europe sans restriction. On doit pouvoir muter des gens à travers l'Europe, dans la zone Schengen. Or, avec la Grande-Bretagne qui quitte le marché unique, elle n'a jamais été membre de Schengen, le transfert de personnes à l'intérieur de l'Union européenne ne pourra plus comprendre la Grande-Bretagne. Cette limite à la libre circulation sera une limite au recrutement. Et donc, non seulement la finance, mais également des centres de décision et des centres de R&D peuvent trouver leur place, non pas seulement à Paris, mais partout dans le système français.
Monsieur McInnes, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
J'étais ravi de m'adresser à nos compatriotes australiens.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.